Accent d'Europe, Frédéric Lebel.
Bonjour à toutes et à tous. Les pouvoirs publics semblent incapables de dénouer le problème, celui de la violence et de l'errance des grands drogués, le plus souvent au crack. L'exaspération des citadins est à la hauteur de l'incapacité de la médecine à soigner et à faire décrocher ces toxicomanes. L'idée des salles de shoot pour canaliser les prises avec un moindre risque est apparue dans les années 80. C'est à cette époque qu'elles ont vu le jour en Allemagne pour limiter l'épidémie de sida et d'hépatite C. Autorisées au niveau fédéral, on en compte aujourd'hui une petite trentaine dans le pays. Elles doivent accueillir les drogués et négocier constamment avec les habitants du quartier sur les risques que pose leur présence. Déborah Berlioz a visité une de ces structures dans le quartier de Neukölln à Berlin.
On peut passer des dizaines de fois dans cette rue très fréquentée sans la remarquer. Pourtant, la salle de consommation de drogue de Neukölln a ouvert ses portes en 2019. Certes, on peut croiser quelques toxicomanes, mais le quartier fait partie des points chauds de la capitale, donc cela n'a rien d'étonnant. Malte, crête rouge sur la tête et piercing dans le nez accueillent les visiteurs. Après leur inscription, ce travailleur social les dirige vers une salle aseptisée où ils pourront consommer leur drogue en toute sécurité.
S'ils veulent avoir du matériel, nous avons des seringues de différentes couleurs, de manière à ce que chacun sache toujours laquelle est la sienne. Et nous avons des aiguilles de différentes tailles.
L'objectif premier est en effet d'offrir de bonnes conditions d'hygiène aux toxicomanes. On limite ainsi les maladies, mais aussi les morts par overdose. 100 à 150 personnes viennent ici chaque jour. C'était deux fois plus avant la pandémie. Beaucoup sont d'origine immigrée, la plupart n'ont pas de domicile fixe et tous ont vécu une sorte de traumatisme selon Malte. S'ils veulent se désintoxiquer, Malte et ses collègues sont là pour les aider, mais ce n'est pas leur priorité.
Si je vois qu'un visiteur a perdu beaucoup de poids en peu de temps, ou bien qu'il passe d'une consommation par inhalation à des injections, je vais tenter de lui parler en toute confiance, de lui demander ce qui se passe. Mais nous n'allons pas leur dire qu'ils doivent absolument arrêter, car ce serait la mauvaise voie et ils arrêteraient complètement de venir nous voir.
Cette salle est avant tout un moyen d'atteindre les toxicomanes qui vivent autrement en marge de la société. Ici, ils peuvent recevoir des conseils, prendre une douche, laver leurs vêtements ou encore recevoir un café ou un repas chaud. La première salle de ce type a ouvert en 2004 à Berlin. Aujourd'hui, on en compte 4 et une cinquième devrait bientôt ouvrir ses portes. Financées par la ville, elles sont gérées par l'association Fixpunkt. Cette dernière coopère étroitement avec les services de santé et la police. Pas question en effet que les usagers se fassent arrêter pour possession devant l'entrée. Pour Olaf Schrem, qui dirige la brigade des stupéfiants à Berlin, ces salles ont de multiples avantages.
Ce qui est important ici, c'est qu'on essaye d'empêcher la consommation dans l'espace public. On minimise ainsi l'apparition de spots de consommation avec vente et consommation sur place. Les habitants ont ainsi moins l'impression que les choses échappent à tout contrôle. Il faut voir que ce sont des personnes très dépendantes et ce n'est pas en les punissant qu'on va arriver à quelque chose.
Pour lui, ces salles sont complémentaires du travail de police. Grâce à elles, on retrouve moins de seringues usagées dans les parcs et les aires de jeu. D'ailleurs, le policier affirme ne pas recevoir de plaintes de la part des riverains. Tania tient une boulangerie près de la salle de Neukölln et elle ne semble pas détester ses voisins.
Il y a des jours où les visiteurs sont énervants, ils peuvent vendre des marchandises volées. C'est dommage, mais bon, dans l'ensemble, cette salle est une bonne chose pour eux, évidemment.
Quand les premières salles de shoot ont ouvert leurs portes à Berlin en 2004, les riverains ont pourtant largement protesté et plusieurs pétitions ont été lancées. Mais maintenant, l'association et son action sont connues et mieux acceptées. Quand la salle de Neukölln a ouvert, Malte et la directrice sont allés voir tous les voisins et ils ont organisé une réunion d'information dans la paroisse d'en face. Si beaucoup de riverains n'ont émis aucune objection, certains se sont tout de même montrés hostiles. Monica, qui dirige la salle aujourd'hui, en entend encore certains se plaindre de la présence de toxicomanes devant leur immeuble. Pourtant, elle et ses collègues font tout pour pacifier la zone.
Dans l'environnement immédiat de notre établissement, nous faisons attention à ce qu'aucun délit ne soit commis. C'est-à-dire que si nous voyons qu'un dealer ou une dealeuse s'installe à côté, nous allons aller le voir et lui demander d'aller ailleurs.
Malte organise également des réunions pour répondre aux questions des citoyens confrontés aux toxicomanes.
Que dois-je faire si je trouve une seringue ? Comment dois-je me comporter si une personne consomme dans mon immeuble ? Qu'est-ce que je dois faire si je vois une personne qui ne se sent visiblement pas bien ? Ce sont de bonnes réunions. Après, les gens savent à qui ils peuvent s'adresser et surtout, ils savent que faire dans ce genre de situation.
Toutes ces informations pratiques sont également résumées dans une brochure très pédagogique que Malte distribue lors de ses rondes dans le quartier. Pour lui et Monica, il s'agit aussi d'améliorer l'acceptation sociale de la toxicomanie. La dépendance est avant tout une maladie et plus de 200 personnes sont mortes d'overdose l'année dernière à Berlin. Malte aimerait donc que les différentes salles de shoot restent ouvertes 24 heures sur 24 et non de 9h à 21h comme elles le sont aujourd'hui. Mais pour cela, il faut plus de financement ainsi que du personnel qualifié et motivé.
Il faut être formé et avoir envie de travailler avec des gens qui sont vraiment au plus bas et il est possible qu'on n'arrive pas à les aider. Il faut aussi accepter quand les gens ne veulent pas de notre aide ou bien quand certains se suicident. Tout le monde ne peut pas le supporter.
Lui fait cela depuis 20 ans déjà et il n'est pas prêt d'arrêter.
Et à Paris, la situation est loin d'être apaisée. Voilà des années que les crackers, des fumeurs de cocaïne coupée, se regroupent dans les quartiers nord-est de la capitale. La prise de drogue sur les trottoirs ou dans les parcs près des familles, la détresse, l'extrême précarité et la violence n'ont finalement été que déplacées de quartier en quartier par des forces de police impuissantes. En septembre dernier, le gouvernement a annoncé son plan crack avec l'ouverture de salles de consommation qui ne font pas l'unanimité, c'est le moins que l'on puisse dire. C'est le reportage d'Alice Roujat.
À Paris, le crack, on le consomme sur les trottoirs. Les usagers l'appellent la galette, une petite boule blanche de cocaïne coupée très addictive qui se fume avec une pipe. Sylvain en consomme au quotidien depuis plusieurs années.
Dans le corps, moi, je sais pas comment expliquer, ça te met une sensation, tu sais, d'euphorie et de second degré, quoi. T'es ailleurs, quoi. Spécialement, moi, je me cache, je fume pas devant tout le monde. J'aime pas ça. Parce qu'on est catalogué vite fait, quoi. Même si on n'est pas méchant, qu'on est capable de travailler, les gens, tout de suite, ils vont nous cataloguer comme les gens qui sont tous là, tous les mêmes, tu vois, qu'on n'est pas tous les mêmes, en vrai, quoi.
Je fais la manche un peu, tu vois. Et si je peux trouver deux ou trois boulots à droite, à gauche, c'est ce que je fais, quoi.
Selon l'Observatoire français des drogues et toxicomanie, il serait environ 13 000 à consommer du crack en région parisienne. On estime que plus de 70% d'entre eux fréquentent des CARUD, des centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogue, où ils peuvent bénéficier d'un accompagnement médical et social.
Alors en fait, on met un doseur, qui est ce tube en verre, deux embouts et deux filtres par kit.
José Matos est le chef de service du CARUD mobile de Gaïa, dans Paris Intramuros.
On distribue du matériel de réduction des risques. C'est des outils qui servent aux personnes pour consommer des drogues, mais qui sont pour nous une façon de parler des risques qui sont pris lorsqu'on consomme des drogues et d'expliquer comment il faut faire pour se faire moins de mal. L'idée étant d'aller vers elles. Si on attend que quelqu'un vienne pousser une porte, parfois il a déjà attrapé une hépatite, c'est déjà beaucoup désocialisé. Donc c'est plus intéressant en fait de rencontrer les personnes le plus vite possible.
Ce matin-là, trois membres de l'association ont garé leur camion sur la porte de la Villette, au nord-est de la capitale. Ils distribuent des tubes en verre propres et des filtres aux fumeurs. Surveillés et encadrés par des policiers, ils sont contraints de rester dans ce périmètre.
Bonne journée.
Bonne journée, merci beaucoup.
Au revoir.
Une action de terrain nécessaire mais insuffisante pour prendre en charge ce problème de santé publique. C'est pourquoi en septembre 2021, le gouvernement a annoncé l'ouverture prochaine de salles de consommation à moindre risque.
Nous prévoyons la construction dans le financement de 2 salles supplémentaires par an à l'échelle du pays.
Une annonce qui a provoqué un tollé auprès des citoyens et riverains des scènes du crack à Paris.
On n'en veut pas, personne n'en veut, ni les toxicomanes ni les riverains.
excédés par la vue des drogués dans les rues, leurs pipes et seringues sur les trottoirs, et craignant pour leur sécurité si une salle s'implantait dans leur quartier.
Voir un homme tout nu en train de hurler en pleine rue à 16h30 à la sortie d'école parce qu'il est en manque, ou que voilà, il est en train de déféquer devant tout le monde dans la rue, enfin, est-ce que c'est un spectacle pour des enfants, puis même, ni même pour moi, ni même pour une personne âgée en fait.
9 associations et 17 collectifs citoyens ont lancé une pétition, non à Paris, capitale de la toxicomanie, et écrit une lettre ouverte au président de la République. Frédéric Francel est membre d'un de ces collectifs.
Faire en sorte que les toxicomanes soient sortis de leur état de toxicomane, qu'ils soient sevrés, encadrés vers une réinsertion, que les riverains ne pâtissent pas en fait de la solution qui soit proposée, et que ben voilà, que tout le monde en fait rentre en synergie, que la ville, le département, le préfet, que tout le monde en fait rentre en synergie pour sortir ces gens-là de la rue et les soigner.
Pourtant, selon un rapport de l'INSERM, l'Institut National de la Santé et la Recherche Médicale, ouvrir des salles de consommation aurait de véritables effets positifs, autant pour les usagers, avec une réduction des maladies, que pour les riverains.
Salut Michel, la forme ?
Deux salles test ont ouvert en France en 2016, dont une à Paris.
Michel 91.
Ça sent la neige.
Hein ?
Ça sent la neige.
Ici, les consommateurs ont un espace pour prendre la drogue qu'ils se sont déjà procurée. Une règle, ils doivent la présenter aux éducateurs sur place et respecter la dose annoncée.
Là, on les inscrit, on note ce qu'ils annoncent comme consommation. Et juste après, ils vont dans l'hôtel où là, les collègues voient ce qu'on a noté. Et du coup, là, vont pouvoir les accueillir pour être sur un truc beaucoup plus pratique. Donc, distribution de matériel, accompagnement, l'injection.
Marine est salariée du lieu. Pour elle, la solution n'est pas le sevrage, mais l'accompagnement. Parce que ces publics rencontrent souvent de grandes difficultés à cause de leur précarité et qu'il n'existe aucun produit de substitution pour cette drogue.
Soigner, c'est pas forcément le sevrage. Ici, on a des infirmiers, on a des médecins. Il y a du soin, il y a du médical. Là où nous, on intervient, c'est le fait de pouvoir accueillir ces gens dans leur réalité, dans leur consommation, dans leur quotidien, dans leur suivi justice. Il y a énormément de choses dans l'hébergement. C'est ça notre rôle, c'est de les aider à l'instant T où ils en sont en fait.
80% des Français seraient favorables à l'ouverture de salles de consommation, un chiffre qui descend à 55% si la salle se situe en bas de chez eux. Mais pour l'heure, les pouvoirs publics se rejettent mutuellement la responsabilité pour ouvrir de tels lieux.
Et on vous entraîne pour une drôle de découverte de la Turquie par le biais d'un livre, le Dictionnaire insolite de la Turquie. Il est écrit par Samin Akgönül, historien, politologue et directeur des études turques à l'université de Strasbourg. Anand Lauer, vous êtes notre correspondante à Istanbul. Peut-on faire rentrer un pays comme la Turquie dans un dictionnaire ?
Non, évidemment, mais ce dictionnaire insolite réussit tout de même le tour de force de montrer la Turquie à 360 degrés, en parlant à la fois d'histoire, de musique, de sport, de politique, de religion, et j'en passe, mais aussi d'aborder la Turquie dans une approche macro et microscopique, c'est-à-dire d'entrer à la fois dans ses problématiques les plus larges, les plus lourdes, par exemple le clivage turc-kurde, Alevi, sunnite, les Arméniens, etc., et dans les interstices les plus intimes de sa société, les pratiques culturelles, les lieux de sociabilité, comme par exemple les kahvehane, ces établissements presque masculins exclusivement, où, comme leur nom n'indique pas, on boit surtout du thé. En racontant aussi des évolutions comme le grand écart socio-économique entre les bakkal, les petits épiciers de quartier qui résistent malgré tout, et les centres commerciaux, les AVM, comme on les appelle ici en turc, qui redessinent le paysage urbain depuis les années 1980. C'est d'ailleurs quand ils pointent du doigt les contradictions, les permanences malgré les changements, que ce dictionnaire insolite est le plus intéressant qu'on connaisse déjà la Turquie, ou qu'on la découvre.
Et les contradictions, ce n'est pas vraiment ce qui manque en Turquie.
Non, et l'auteur sait très bien les pointer du doigt avec des exemples concrets. Par exemple, quand il parle de Huysuz Virgin, le nom de scène de Seyfi Dursunoğlu, qui fut fonctionnaire avant de vivre de sa passion et de se déguiser en femme extravagante, pour devenir rapidement et pendant 40 ans l'une des figures les plus populaires de la télévision turque. Il est étonnant de voir, dans une société si conservatrice et homophobe, un homme faire une telle carrière en tant que drag queen, observe Salim Akgönül, qui note quand même que Huysuz Virgin, mot à mot Virgin la grincheuse, a fini par être privée de plateau télé dans les années 2010, certainement parce qu'elle dérangeait les tenants de l'idéologie conservatrice au pouvoir.
Les mots ont un sens en particulier dans un pays comme la Turquie, héritière de l'Empire ottoman, dont la langue a beaucoup évolué. Et quel meilleur format, Anne, qu'un dictionnaire pour souligner ces évolutions ?
Tout à fait. Et l'ouvrage propose d'ailleurs plusieurs entrées qui font référence à cette problématique. Révolution linguistique, par exemple, qui rappelle comment l'État républicain, dès les années 1930, a eu à cœur de purifier la langue ottomane de ses apports étrangers, alors notamment des mots arabes et persans qui étaient trop associés à l'Orient, avec plus ou moins succès d'ailleurs, et comment c'est plutôt désormais une chasse aux mots français et anglais que mènent les élites islamo-nationalistes. On trouve aussi un intéressant développement sur la toponymie ou comment des noms de lieux, notamment d'innombrables villages et quartiers, ont été changés sous la République pour effacer toute trace d'une mémoire dérangeante, c'est-à-dire celle des Kurdes, des Grecs ou des Arméniens qui y habitaient autrefois.
Et dans ce dictionnaire insolite, il est aussi beaucoup question de cuisine.
Et il aurait difficilement pu en être autrement, tant la cuisine tient une place importante dans l'histoire et la société turque. L'auteur choisit souvent des plats qui rappellent les influences multiples qui entrent dans la recette de ce qu'on appelle donc à tort la cuisine turque. Sami Makgönül rappelle que la Turquie et ses voisins, notamment la Grèce, se disputent la paternité de nombreux mets, par exemple le baklava, ce millefeuille sucré dont, remarque ironiquement l'auteur, le premier fut dégusté bien avant que n'apparaissent les nations qui le revendiquent aujourd'hui. À noter que les définitions de ce dictionnaire, qui donnent donc à entendre et à sentir une Turquie tout en nuances, sont souvent saupoudrées de dictons savoureux. Un court exemple, Hamsi Kava Çıkınca, qui signifie littéralement « quand l'anchois grimpera sur le peuplier », c'est l'équivalent turc de « quand les poules auront des dents ».
Dictionnaire insolite de la Turquie, dernier titre d'une collection consacrée aux villes et pays du monde, est donc paru aux éditions Cosmopol. Merci Anand Lauer, à bientôt dans Accent d'Europe.
À bientôt, au revoir.
Turn on the radio. I'm talking to you. I'm talking to you. The radio, remember? Make it work.
Radio. It tends to induce...
Music. Et ce vendredi, c'est l'heure de la chronique musique avec vous, Vincent Théval, bonjour.
Bonjour Frédéric, bonjour à tous.
Vous nous emmenez en Angleterre retrouver un musicien qu'on affectionne particulièrement.
Mais oui, vous connaissez sans doute Gorillaz. Vous avez peut-être été fan de Blur ou encore de The Good, The Bad and The Queen. Le point commun de ces trois groupes, c'est l'auteur-compositeur Damon Albarn, héros de la scène pop anglaise des années 90, devenu depuis touche-à-tout hyper actif au fil de projets très différents. Le dernier est un album solo qui vient de paraître, The Nearer the Fountain, More Pure the Stream Flows, un disque imaginé sur les ruines d'un projet que le confinement a fait capoter, initialement prévu pour être une œuvre orchestrale inspirée par les paysages islandais. L'album s'est transformé en une collection de chansons personnelles et vaporeuses, enregistrées avec une poignée de musiciens dans le Devon, au sud de l'Angleterre.
Right. Turning into snow, you put on your robe and disappear into near reality. Thought I.
Royal Morning Blue de Damon Albarn sur Accent d'Europe. L'émission a été réalisée aujourd'hui par Françoise Groslot. Retrouvez-nous sur notre site et sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous à notre podcast sur vos plateformes d'écoute préférées. À lundi.